qui peut nous aider, c'est ça, à avoir une victoire, c'est de regarder si on a le vouloir de vaincre. Parce que des fois, on sait qu'on devrait vaincre dans un certain domaine ou pour certaines choses, mais si on est honnête avec nous-mêmes, ça nous tente pas ben de faire les efforts ou de faire quelque chose pour que ça change, on dit « bon ». C'est pas si pire que ça. On n'a pas nécessairement le vouloir. Fait qu'on tarde à se purifier parce qu'on veut pas tant que ça. Et si on regarde notre vie de tous les jours, on cherche à faire ce que l'on veut. Ce qu'on veut vraiment, on va essayer de l'accomplir. Si on veut faire un voyage, on se ramasse l'argent, on regarde les affaires de voyage, on demande des vacances à notre travail. On s'occupe, on veut avoir notre voyage, on s'occupe pour le faire. Fait que ce qui nous tient vraiment à cœur, on trouve tout le temps, on est toujours prêt à y mettre des efforts et de l'énergie pour arriver à les faire. Fait que si on n'a pas le vouloir de vaincre dans une certaine situation, ça serait bien difficile d'arriver à vaincre. Parce qu'il nous faut vouloir ce que Dieu veut pour nous, il faut que l'on le veuille personnellement, que ce soit pas juste Dieu qui le veuille, mais que nous autres aussi, on le veuille. Veille. Pourquoi des fois on ne voit pas? Parce qu'on ne veut pas. C'est parce qu'on ne trouve pas ça si important ou si dommageable. La situation, on ne la trouve pas si dommageable, mais tout ce qui n'est pas de Dieu, ça nourrit la mort. Ça nourrit un aspect de mort, tandis que tout ce que Dieu donne, ça nourrit, ça génère, ça multiplie la vie. Alors, tout ce que Dieu nous dit de délaisser, il y a une raison, c'est pour justement tout ce qui est des racines de mort qui nous empêchent d'avoir une vie si abondante que ça avec le Seigneur soit enlevée. Fait que des fois, c'est parce que justement, on trouve pas ça si important. D'autres fois, c'est parce qu'on y trouve un certain plaisir. Quand ils disent en Hébreu 11, 25, ils nous parlent de la jouissance du péché pour un temps. Il y a un certain plaisir à pécher parce que s'il n'y avait pas de plaisir du tout, pas davantage, on ne pécherait pas. Hein, s'il y a quelque chose qui nous attire pas, là, certains péchés ne nous attirent pas du tout, on les fait pas. Mais s'il y en a d'autres qui nous attirent, c'est parce qu'on y trouve un certain avantage ou un certain plaisir. OK? Fait que si c'est, mettons, l'alcool, c'est parce que j'aime le feeling que ça me donne. Je me sens plus nerveux quand j'en bois, je sais pas trop. Il y a quelque chose qui nous attire à quelque part. Exemple, si quand vous reprenez vos enfants, ils obéissent juste quand vous levez du temps et vous criez fort. À la longue, vous allez commencer, quand vous reprenez vos enfants, à crier fort tout de suite pour qu'ils obéissent tout de suite. Parce que vous avez vu que ça marchait. OK? Ils se taisaient, puis là, ils commençaient à obéir. Mais c'est pas la méthode que Dieu veut qu'on crie tout le temps. Mais on y trouve un certain avantage. OK? Fait que dans ce sens-là, quand on y trouve un certain avantage, on n'est pas porté à vouloir tant que ça s'en débarrasser et avoir la victoire. Aussi, des fois, c'est parce qu'on n'a pas encore goûté les conséquences négatives qu'il y avait. Parce que Dieu est patient. Dieu est patient. Puis ça dit en Ecclésiaste, si tu... Non, pas celui-là. OK. Ça dit, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de Dieu? En Ésaïe, ça disait ça. C'est que Dieu, il est patient, mais il faut pas user sa patience. Dans le sens, il est très patient, beaucoup plus patient que nous. Il est vraiment patient. Et sa bonté aussi. Mais ça dit que sa patience et sa bonté envers nous dans une certaine situation qu'on devrait régler, ça devrait nous pousser à la repentance et non à continuer de le faire éternellement. Ça devrait nous pousser à la repentance, OK? Fait que ça, on a ça aussi. Aussi, qu'est-ce que des fois qui fait qu'on veut pas, si on veut faire les choses comme on les a toujours faites. Tu sais, ça nous tente pas de changer. On les a appris comme ça, puis ça nous tente pas trop de changer. Mais Dieu, il veut renouveler notre intelligence pour qu'on puisse discerner quelle est sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ça nous dit aussi pour le discernement des choses les meilleures. Des fois, c'est pas quelque chose qui est si terrible que ça en soi, mais c'est un voleur de temps avec le Seigneur, un voleur de temps de bénédiction, un voleur de quelque chose. Puis Dieu, il veut qu'on se porte nos regards vers ce qui est le meilleur, parce qu'il veut nous donner le meilleur. Ok, alors faut comme vouloir nous autres aussi. Donc, pour vaincre, il faut vouloir personnellement. Et si ce matin, on reconnaît que peut-être dans ce qu'il y a dans la boîte ou une autre situation, on ne veut pas vraiment, ben on peut demander à Dieu le vouloir. Parce que Dieu a dit, on a appris des versets dans ce cours-là, Philippiens 2, 13, est-ce que tu t'en souviens? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Dieu produit le vouloir ou ce qu'il n'y a pas de vouloir. OK? Fait que ça, c'est un outil pour avoir la victoire. Parce que des fois, c'est ça, ça nous tente pas tant que ça d'avoir la victoire là-dedans, mais Dieu le dit. Et si Dieu le dit, il sait pourquoi il dit. Hein? C'est pas pour rien qu'il nous le dit. Fait que là, on peut prier, donne-moi le vouloir de vaincre. Donne-moi ce vouloir-là pour que je l'aie personnellement, pour que moi, en dedans, je m'accorde avec toi. Parce que si je m'accorde pas avec toi, ça va toujours tirailler en dedans quand Dieu va nous parler de ça, parce que oui, Dieu, tu veux, mais mais si nous, on veut, oui, je veux, moi aussi, Seigneur, je veux, puis je veux avoir la victoire là-dedans. Fait que ça, c'était un peu le premier point qu'on avait vu. Puis on a dit, comment Dieu produit ça, son vouloir en nous? Ben, il va nous montrer les conséquences négatives, justement, de nos choix. Il peut nous les montrer. Il peut nous laisser les récolter, parce que ça dit qu'on récolte ce que l'on a semé. Okay. Il peut nous laisser subir les conséquences de nos péchés. C'est pas tout le temps. Il le fait pas tout le temps, mais quand il le fait, c'est parce qu'il y a vraiment besoin de le faire pour qu'on se réveille. Okay. Puis ça dit aussi en Ecclésias, c'est là qu'il était, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Des fois, parce qu'on voit pas les conséquences, on dit, ben, Dieu, il endure, il trouve pas ça si pire que ça. Parce qu'on subit pas les conséquences. Mais à un moment donné, il nous fait subir les conséquences pour nous réveiller et dire, regarde, là, ça te nuit. C'est pas bon pour toi. C'est pas bon même pour peut-être tes enfants autour de toi, ton mari ou les gens. C'est pas bon. Puis je veux t'en délivrer. Fait que, est-ce que tu veux, là, quand tu as subi ça, t'aimes-tu ça, les conséquences de qu'est-ce que ça donne? Non, ben c'est ça. Fait que, il va prendre les moyens pour nous, que se développe en nous un genre de dégoût, une haine du mal. Parce que des fois, on n'a pas cette haine-là pour cet aspect-là, fait qu'il va développer un dégoût, une haine pour ce qu'on doit délaisser. Et pour que ce dégoût-là, il dépasse notre tendance à faire ce qui nous nuirait. Il va nous donner un dégoût de ça. Haïssez le mal et aimez le bien. Fait que c'est ça, le premier cours qu'on a eu. Le deuxième cours, c'est « Vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus ». Notre verset de base, c'était 1 Jean 4:4. Est-ce que tu t'en souviens? OK. Vous, petits-enfants, vous l'avez là. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. OK? Vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus. La victoire ici, elle va reposer sur le fait que celui qui nous habite est plus grand que celui qui agit contre nous dans le monde. T'sais, ça repose dans le sens, c'est à cause de ça qu'on va vaincre aussi. Bien qu'on vive dans le monde, Dieu dit il nous a sortis du monde. OK? On n'est plus dans le monde, dans le sens qu'on n'est plus des personnes qui sont appelées à vivre selon les principes du monde, selon notre nature charnelle ou pécheresse. On est de Dieu. On est enfant de Dieu. Nous sommes de Dieu. Puis dans ce sens-là, le Saint-Esprit qui a créé la nouvelle nature, lors de notre nouvelle naissance, c'est par le Saint-Esprit que tout ça se fait. En 2 Pierre 1, ça dit qu'on est devenu participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On est devenu participant de la nature divine. En Jean 15, 19, il dit qu'on n'appartient plus au monde. On n'appartient plus au monde. Fait que c'est vraiment, on est né de Dieu. On est né de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Fait que le triomphe sur le monde nous est donné en partage par Dieu qui nous habite. parce qu'on est né de Dieu, parce que Dieu nous habite. Et 1 Jean 5:4, c'était aussi c'est le verset un peu du cours au complet. C'est parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et nous sommes nés de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, c'est une naissance spirituelle. On est né de l'Esprit de Dieu. Alors, si on est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Fait que ça, c'est une clé de se rappeler ça. À cause que je suis né de Dieu, à cause que je suis enfant de Dieu, Dieu m'habite et à cause de ça, je peux vaincre parce que je suis de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Fait que ça, c'est une autre clé aussi. On va se faire comme un bagage d'outils un matin. C'est ça, fait que on va toutes les repasser un après l'autre. Le troisième qu'on a vu, c'est se relever si on tombe. Ça, c'est important dans la victoire, que si on tombe, on puisse se relever. Dans Jérémie, Dieu dit, « Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? » C'est Dieu qui posait la question. Est-ce qu'on tombe sans se relever? La plus grande difficulté quand on tombe en combattant pour une victoire, c'est de ne pas rester là où est-ce qu'on est tombé. En disant que tout est fini, qu'on a échoué, c'est impossible de réussir. T'sais, ça, c'est un danger quand on tombe, de dire, ben, je reste là, là. Si un bébé qui apprend à marcher tombe et reste là, il apprendra jamais à marcher. Fait que dans le sens, c'est pas de rester là. Jésus a dit que ce qui est impossible aux hommes, ce qu'on pense est impossible à nous, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais où Dieu qu'on vient de voir? Il est en nous. Tu sais? Puis, quand Jésus a dit aussi à la personne qui voulait que son fils soit guéri, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. OK? Aussi, la difficulté, c'est de ne pas rebrousser chemin aussi, parce qu'on est tombé, pensant que nos efforts ne donnent rien et que c'est inutile d'insister. On a appris psaume 37, qui est la chanson « L'Éternel a fermé les pas de l'homme. » Ah, c'est beau, hein? « Il prend plaisir à savoir s'il tombe, il n'est pas terrassé. » Car l'Éternel lui prend la main. Et que si on tombe, on ne sait pas pour être terrassé, parce que l'Éternel va nous prendre la main, parce qu'il prend plaisir à notre voix, il prend plaisir à nous. Aussi, c'est quand on tombe, c'est de ne pas perdre courage, d'être capable de voir au-delà de la chute, mais de regarder celui qui nous habite et qui a fait la promesse de victoire. Est-ce que vous saviez aussi que vous pouvez prier pour avoir du courage? Des fois, on dit, j'ai pas le courage. Mais on peut dire, Seigneur, donne-moi du courage. On peut prier pour avoir du courage. En Proverbe, ça dit, si tu perds courage devant la difficulté ou au jour du péril, ça dépend de la version, ton courage est bien ferme. Moi, j'ai dit ça à un moment donné, puis j'ai dit, oui, c'est vrai, mon courage est bien ferme. Mais Seigneur, donne-moi-en du courage, parce que le mien, il est pas gros, mon courage. OK? Puis quand le peuple, Dieu, il encourageait le peuple à aller prendre le pays, il dit, en route, allez vous en emparer comme le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous l'ordonnez. Soyez courageux et forts. Soyez pleins de courage. Et pourquoi il nous dit ça? Parce qu'il dit, 2 Chroniques 15, « Vous donc fortifiez-vous, ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » Il va y avoir des résultats. Mais continuez. Il faut se relever et continuer jusqu'au bout. Job, il dit, « Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. » Tu prieras pour ton relèvement. Quand tu es tombé, prie pour ton relèvement. Tu peux prier pour ça. En psaume, il dit, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu relèves ma tête. Et psaume 110, il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. C'est quand on est tombé, on se remet à boire au torrent du Seigneur et on relève notre tête. Ça nous fait relever notre tête. En proverbe, car 7 fois le juste tombe et il se relève. Ça se peut qu'on tombe, ça le dit. 7 fois le juste tombe, mais il se relève. c'est se relever. Michée, c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombée, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Et quand Gédéon poursuivait avec ses 300 hommes là, qui ont eu la victoire, à un moment donné, il était d'une ville à l'autre, puis il était fatigué. Ça dit en juge 8 qu'il était fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Et que même lorsqu'on est fatigué, il faut continuer. Il faut continuer d'avancer. Il faut continuer. On ne reste pas par terre. Parce que la persévérance, ça nous donne la victoire dans l'épreuve. OK? J'ai trouvé quelques pensées par rapport à ça, puis je voulais les lire. La réussite, ce n'est pas quand tu es au sommet, mais quand tu touches le fond et que tu es capable de rebondir. Il n'y a qu'une seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant même d'avoir réussi. C'est bon, hein, comme le chat. La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Celui qui tombe et qui se relève est bien plus fort que celui qui ne tombe jamais. Tiens. Notre plus grande victoire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever après chaque chute. Elle, je la trouvais cute aussi. Il n'y a qu'une réponse à la défaite, c'est la victoire. Dans le sens qu'on se relève, on recommence, on va voir la victoire. Puis là, il y avait comme un petit texte. Si vous tombez, c'est pour vous relever. Si vous vous relevez, c'est pour continuer. Si vous continuez, c'est pour aller là où vous voulez arriver. Et si vous y allez, c'est parce que vous savez que le meilleur est à venir. C'est bon, hein, ces petites pensées-là, ça fait du bien. Quatrième outil. Notre capacité vient de Dieu. Ce n'est pas parce que le défi te paraît trop grand que tu n'y arriveras pas. N'oublie jamais que ta capacité vient de Dieu. C'est ce qu'il dit en Corinthiens aussi. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et qu'on peut se sentir incapable d'avoir la victoire et effectivement être incapable en nous-mêmes d'y arriver, parce que sans Dieu, sans les capacités qu'il nous donne, c'est dur d'accomplir ce que Dieu veut dans notre vie. Mais c'est lui qui nous rend capables. Il nous rend capables d'agir comme il lui plaît. On sait qu'il a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais en Ézéchiel 36, il dit, « Je mettrai en vous mon esprit et je vous rendrai ainsi capables d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Par mon esprit, je vous rendrai capable d'obéir, de pratiquer, d'observer. » En Philippiens 4:13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout faire ce que Dieu me dit ou me demande de faire. » Si c'est pas Dieu qui me le demande, ça se peut, je ne suis pas capable de le faire. Mais si Dieu me demande quelque chose, je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout faire ce qu'il me le demande de faire. Parce que quand on a vu tout à l'heure le verset, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Et le faire. Il nous donne de vouloir. Il nous donne la capacité qu'on ne fait pas juste vouloir, on va être capable de le faire. Il va nous donner ce qu'il faut. Puis des fois, on lit la fin du verset, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dans le cours, ça l'a sorti, ça, dans le sens, ça veut dire que si ça lui plaît pas, il me le donne pas. Tu sais, selon son bon plaisir, que ça veut dire? Il nous donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est plutôt pour, c'est dans le sens pour faire les actions qui lui plaisent, pour faire ce qui lui plaît, et non parce qu'il plaît à Dieu, et parfois que ça lui plaît pas, de nous donner le vouloir et le faire. C'est pas que ça lui plaît ou ça lui plaît pas. Ça lui plaît tout le temps de nous donner le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est selon pour faire seul ce qui lui plaît, ce qui lui fait plaisir. OK? Ça fait que c'est différent aussi. Un autre outil qui peut nous aider, c'est que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Bien que Dieu soit notre victoire, le processus de victoire, c'est pas passif, mais c'est actif pour nous. Parce que Dieu, il nous inclut dans le processus. Il va nous inclure dans le processus de nos victoires pour qu'on soit participants de sa gloire. Il veut qu'on soit participants de sa gloire, fait qu'il va nous inclure dans le processus. Il va demander notre collaboration en cours de route. Fait que là, c'est pas d'attendre tout le temps, ah, ben, toutes mes victoires, ils vont arriver, puis là, tout ça. C'est pas aussi de prendre les dollars avant Dieu. C'est qu'il va nous donner ce qu'il faut en cours de route. Il va nous demander notre collaboration. Il va nous inclure dans le processus. Il y avait une image qui était là-dedans sur YouTube. C'était une grosse colline, puis un gros caillou, là, plus gros que ça, là, OK? Puis là, tu voyais la main de Dieu que le doigt poussait le gros caillou. Puis là, tu avais la personne en bas sur la colline qui poussait le gros caillou. Fait que c'était impossible humainement, mais Dieu l'inclut dans le processus. Tu pousses et moi, je vais faire le reste. Tu sais, tu pousses, ce qui paraît trop grand, trop difficile pour toi, mais moi, je suis là, puis je vais le faire aussi. Fait que je t'inclus dans le processus. Ça nous donne bien plus de joie de participer avec Dieu que de rester là à attendre. Parce qu'on voit tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu transformer, tout ce qu'il a pu nous révéler en dedans de nous. Il va faire des choses vraiment. Si on ignore ces choses, là, de faire, si, mettons, il demande notre collaboration aussi pour qu'on sache par quel accès le péché peut s'enraciner en nous. C'est où que ça y donne accès? C'est quoi en moi qui fait que ça, je suis pas capable de m'en débarrasser? Fait qu'il veut vraiment qu'on avance, tu sais, puis qu'on soit capable de le reconnaître pour pas tomber là à nouveau. Fait que si on ignore ces choses-là, ben si on connaît pas notre cœur vis-à-vis ça, on risque d'avoir à combattre tout le temps les mêmes combats à répétition. Pis c'est pas ça qu'on veut, parce que Dieu veut nous donner des délivrances et des victoires qui durent. Ok, il veut pas qu'on soit tout le temps dans la même vase, pour pas dire autre chose. Le processus de collaboration, c'est que Dieu me dit des directives pour vaincre, puis ma part, c'est d'agir comme Dieu dit. Puis quand je commence à agir, aussitôt que je commence à agir comme Dieu dit, bien Dieu lui-même, comme je vous ai dit tantôt pour le gros rocher, il m'appuie, puis il pose son sceau sur moi, il déverse sa puissance en moi, il m'amène plus loin, là où je n'étais pas capable d'aller toute seule, il me fortifie, il me transforme. Puis là, la délivrance et la victoire s'installent et se concrétisent. Puis en cours de processus, j'apprends de Dieu, j'apprends à mieux le connaître, lui. J'apprends aussi à me connaître mieux moi-même. Je grandis en lui, je progresse, je mature, je suis plus fort et de plus en plus conquérant. Fait que c'est pour ça qu'il veut qu'on soit ouvrier avec lui. Parce que c'est ça, il nous montre toutes sortes d'affaires en cours de route, puis on devient plus fort. Fait que Dieu me transforme à son image quand je collabore avec lui à ma formation et dans mes combats. Et la victoire est toujours là d'une manière ou d'une autre. La victoire va être là si je collabore avec lui. Et ses manières sont toujours efficaces. C'est toujours efficace. Alors pourquoi chercher à n'en faire qu'à notre tête? Si ses manières sont toujours efficaces, ça donne quoi de faire juste à notre tête ou tout seul ou avec nos faibles forces puis nos ressources limitées? Ça donne à rien. Je suis ouvrier avec lui et ça fonctionne bien quand on agit comme ça. Avec Dieu et sous sa gouverne, tout porte du fruit à travers moi. Hein? Avec Dieu et sous sa gouverne, tout porte du fruit à travers moi. C'est un fruit paisible qui demeure. Avec Dieu, je fais des exploits parce qu'il fait des exploits. Je fais des exploits aussi. Et qu'il est victorieux, notre Dieu, en toutes circonstances. Il n'y a rien qui peut le bloquer. Il n'y a rien qui peut l'arrêter, lui nuire. Fait que si je le suis, je suis en sécurité. Puis j'entre dans la gloire de ses exploits et de sa victoire. J'entre dans sa gloire aussi. 2 Corinthiens 2,14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous. Vous voyez, on est encore là. Par nous. On en rentre dans le processus, il nous fait toujours triompher en Christ et répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. 6. L'intimité avec Dieu, c'est les prémices d'une foi qui est victorieuse. Les prémices, c'est les premiers pas, si on veut, les premières choses. Les premiers pas d'une foi qui prend des victoires, c'est tous les éléments de base qui sont devenus des acquis dans notre vie, comme la parole, la prière, de passer du temps avec lui ou de se rassembler ensemble. Ça, c'est toutes des choses qui deviennent des acquis dans notre vie. C'est comme des prémices, c'est des fondements desquels vont sortir des bons réflexes spirituels. Quand c'est des choses établies dans nos vies, on va être nourri, pour commencer, à chaque jour. Et qu'on ne sera pas en famine vis-à-vis un combat, une attaque. On va être nourri, puis il va savoir développer des réflexes spirituels. Ah, ben quand ça arrive, je m'en vais trouver le Seigneur, je veux savoir son avis, je m'en vais prier, je m'en vais me décharger sur lui de tous mes soucis. Il va avoir des réflexes spirituels qui se font parce qu'il y a justement des éléments de base qui sont devenus des acquis dans nos vies. Fait que ça, puis quand c'est dans nos vies, puis que les gens voient ce qui se passe dans nos vies, c'est que ça devient pour eux autres aussi un encouragement. Un encouragement, ça peut être un précurseur, un motivateur, un inspirateur pour avoir des victoires dans leur propre vie. Parce qu'ils voient que toi, tu as des victoires, puis ils te voient aller. Fait que c'est des prémices pour nos victoires, mais on devient aussi prémices pour des victoires dans la vie des autres. Parce qu'il nous voit aller. Fait qu'entretenir une relation d'intimité avec Dieu, garder une vie consacrée, c'est toujours bon pour la victoire. Si on demeure à distance de Dieu, ça ne sème pas là, les réflexes qui nous aideraient là, dans des temps difficiles. Fait que c'est rester collé au Seigneur, dans le fond. C'est s'éloigner du mal pour s'approcher du Seigneur, ça produit de bonnes choses. Comme Josué, combien de temps qu'il est resté collé après Moïse, dans le fond, tu sais. Quand il était sur la montagne, Josué était en bas sur la montagne, il n'était pas avec le peuple. Quand il y avait le tabernacle, Josué était là, il l'a suivi tout le temps du désert, il était de l'Égypte jusqu'à Canaan, jusqu'à la terre promise. Il est resté collé à Moïse. Élisée, il est resté collé à Élie pour avoir la double part. Pierre, Jean-Jacques sont restés collés tout près du Seigneur. Ils n'étaient pas des hommes parfaits, mais ils sont collés à celui qui était parfait, qui est le Seigneur. Fait que tous ont été quand même des prémices là, pour des victoires aussi. Fait que cette intimité-là, elle m'apprend à aimer puis à suivre le Seigneur. Elle lui laisse le champ libre pour agir en moi ou au travers moi. Ça lui laisse le champ libre de ça. En psaume, ça dit, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. » Je cherche ta face, ô Éternel. Vous le savez, en dedans de vous autres, hein, des fois, là, on est un bout de temps, là, qu'on prie pas beaucoup, on lit pas beaucoup. Puis l'Esprit en vous le dit, cherche ma face. Viens dans ma présence. Ça le dit en dedans de nous autres. Parce que c'est utile. Ça dit aussi que celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Il est pas en sécheresse. Il est tout le temps plein d'eau. Qui le rafraîchit. En Proverbe, ça dit qu'il est bon qu'on garde toutes les instructions du Seigneur au-dedans de nous et qu'elles soient présentes, toutes présentes sur nos lèvres, afin que notre confiance repose sur l'Éternel. Il veut nous instruire aujourd'hui. Si tu tournes la page puis tu relis ça le lendemain, là, aujourd'hui, il est aujourd'hui, toujours aujourd'hui, pour t'enseigner des choses sûres et des paroles vraies. Enseigner des choses sûres et des paroles vraies. Puis on a tellement besoin de ces choses sûres et de ces paroles vraies parce qu'on sait comment que les faux raisonnements peuvent nous nuire quand on est en bataille. Et qu'on a besoin d'avoir ces choses sûres et ces choses vraies. Fait que l'intimité avec le Seigneur, c'est un prémisse d'une foi victorieuse aussi. Septième. Ça va bien quand même, hein? Se fortifier dans le Seigneur. On a vu des choses, on a des outils, là. Se fortifier dans le Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. En français courant, ça dit, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Fortifier, c'est devenir plus fort, plus résistant, plus solide, développer des forces, se solidifier. Dans quel but qu'on est fortifié? Les versets suivants d'Ésaïe 6:10 nous le disent. C'est pour tenir ferme contre les ruses du diable, pour résister dans le mauvais jour, pour rester debout, pour tout surmonter sans être démoli. Parce que des fois, c'est ça, on a lutté, mais à la fin, on est tellement magané qu'on ne veut plus rien savoir. Mais là, il dit, pour rester debout, pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand on tient encore ferme, on est encore joyeux de servir le Seigneur, on est encore en forme, parce que, justement, on était fortifié dans le Seigneur, puis on était capable de combattre le bon combat. Fait que si Dieu nous demande de se fortifier, c'est parce qu'on a besoin d'être fortifié. Hein? Si on n'aurait pas besoin, il ne nous dirait pas de se fortifier. C'est comme on mange pour avoir des forces physiques, il faut manger aussi pour avoir des forces spirituelles aussi. Mais aussi parce qu'en nous-mêmes, on n'a pas assez de force pour tout surmonter, on peut s'épuiser. Puis, dans Corinthiens, ça dit que celui qui pense être debout, prenne garde de ne pas tomber. Ça, on se dit, oh, j'ai assez de force, je peux se passer ça un petit peu. C'est que t'espaces de manger de la nourriture, t'auras beau laisser passer, et à un moment donné, il va falloir t'en manger. Parce que tu vas tomber en faiblesse. OK? C'est la même chose. Faut pas se dire, oh, je suis debout, je suis assez fort. Si tu dis ça, t'es déjà presque tombé. T'es déjà en train de tomber. Aussi, quand on dit se fortifier dans le Seigneur, c'est que chacun de nous est responsable de prendre les moyens de se fortifier dans le Seigneur. Soit personnellement, soit ensemble, comme on fait aujourd'hui, par sa parole qui est la vérité qui est esprit, qui est vie. Toute la parole, elle est sûre, certaine, c'est véritable, c'est vérifié, c'est vérifiable. C'est quelque chose, c'est vraiment de la bonne nourriture. Puis ça dit se fortifier dans le Seigneur. Pas se fortifier en nous-mêmes, pas se fortifier selon les pensées du monde, mais se fortifier dans le Seigneur. Parce que tout ce qui est du Seigneur, tout cela, ça nourrit notre âme. Okay? Ça nous donne une assurance, une solidité. Notre assurance et notre solidité, ça doit reposer sur sa puissance et non sur notre puissance. Sur le divin et non sur l'humain, sur le spirituel et non sur le naturel. Ça doit reposer dans le Seigneur. Se fortifier, c'est dans le Seigneur. Par sa force toute puissante, se fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante, c'est le Saint-Esprit. Parce que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est sa puissance aussi. Puis par le Saint-Esprit, on peut connaître qu'on demeure en lui puis qu'il demeure en nous. Parce qu'il nous a donné l'Esprit, on peut garder le bon dépôt par le Saint-Esprit. Et qu'on peut vraiment tout par celui qui nous fortifie. Fait qu'on se fortifie dans le Seigneur. Huitième, la puissance de l'obéissance. Ça aussi, c'est un outil qui est vraiment, c'est puissant, c'est puissant. Fait que l'obéissance aux directives du Seigneur, c'est un des aspects les plus importants aussi, avec l'intimité et ces choses-là. Mais c'est tellement important pour remporter des grandes victoires que d'être obéissant. Jésus lui-même a affirmé qu'il faisait toujours ce qui plaisait à son Père. Il était obéissant. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il fait toujours ce qui est agréable au Père. Lors du plus grand combat de sa vie, à l'approche de la mort par la croix, l'humanité de Jésus criait comme nous autres on l'aurait fait. Il a crié, « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Il a crié comme nous, on aurait crié. « S'il est possible que... » Nous autres, on n'aurait peut-être pas crié, on aurait pris nos pattes et on aurait parti. Allez, il a crié, « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais l'Esprit en lui criait autre chose. Il criait la victoire à venir. Il criait la victoire sur la mort et le péché. Il criait que le paiement des péchés du monde allait être fait. Il criait que l'accès au salut allait être donné à ceux qui croiraient. Il criait que le rétablissement d'une relation intime entre Dieu et l'homme serait possible. Et que l'amour que Jésus avait pour son Père a fait qu'il a fait plier sa volonté à celle de son Père. Et il déclara dans son combat au sein des angoisses, parce que ça dit qu'il était plein d'angoisses et que c'était l'heure des ténèbres. Non pas ma volonté, mais ta volonté. T'sais, il a crié dans son humanité, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais l'Esprit en lui et tout ce que le Seigneur lui avait, Dieu, le Père lui avait demandé de faire et qu'il savait depuis sa naissance, parce qu'il est venu exprès pour ça, non pas ma volonté, mais ta volonté. Que c'est ce qu'il a dit. Fait qu'il s'est dit en Philippiens qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mais quelle puissance ça l'a donné, puis quelle gloire, puis quel résultat que ça l'a donné, des résultats éternels. Puis nous tous ici, là, on a le résultat de ce qu'il a fait là. Non pas ma volonté, mais ta volonté. S'il n'avait pas fait ça, nous, on serait pas là ce matin-là. Fait qu'il y a des résultats éternels à cause de cette obéissance-là. Fait que l'obéissance, c'est faire plier notre volonté propre à celle du Seigneur. C'est ça l'obéissance. Afin que la sienne s'accomplisse ici-bas comme au ciel, et qu'ainsi sa gloire, sa victoire et sa présence se démontrent parmi nous et en nous aussi. Fait que pour vaincre, pour voir la gloire de Dieu, on a besoin d'être obéissant. Et surtout dans les moments les plus difficiles. Parce que c'est facile d'obéir quand tout va bien. Mais quand tout va pas bien, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est là qu'il faut continuer encore plus à être obéissant. Parce que notre obéissance dans le feu ardent des combats, c'est le fruit de la solidité de notre foi. Ça montre notre foi. On obéit, si on a foi en Dieu, en ce qu'il nous a dit à travers tout ça, on peut lui obéir. Ça montre la solidité de notre foi. Qu'on voit le résultat dans l'immédiat ou bien que le résultat soit caché maintenant là à nos yeux, là, on continue. Les plans du Seigneur et ses manières de faire, les choses sont parfaites et sans erreur. C'est pas des essais que Dieu fait avec nous autres. Tu sais, ses plans, ils naissent de sa sagesse et de sa puissance infinie. Et qui sont vraiment parfaits. Notre obéissance au Seigneur, c'est un bon barème pour évaluer notre relation de confiance et notre sécurité face à la volonté de Dieu. Parce que si on est en sécurité, on le sait, hein, si nos parents, quand on était petits, nous demandaient quelque chose parce qu'on aime nos parents en sécurité, soit on n'a pas l'esprit trop rebelle et astinu, on va dire oui, on va le faire. Puis on n'aura pas peur de le faire parce qu'on sait que ce qu'ils nous demandent, c'est correct. Aussi. Dieu ne nous fera jamais défaut. Il ne nous entraînera jamais sur un sentier de destruction. Ça va être toujours un sentier de vie. Il nous amène sur les lieux élevés qu'il a préparés pour nous parce que Sophonie disait ça. Tu m'entraînes sur mes lieux élevés. Il y a des lieux élevés préparés exprès pour nous. Puis que même au milieu de combat, on peut être là. On peut être là en confiance, en sécurité. Pour le verset de l'obéissance, c'est Job 23. « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » 9. Le contentement, c'est un outil aussi. Quand on n'est pas content de l'état où on se trouve, on va chercher des moyens pour devenir content. Puis, on ne cherche pas toujours à bonne place. Hein? C'est pas toujours des places profitables pour nous, pour notre âme. Puis dans ces cas-là, on se met vraiment dans des situations où ce qu'on va avoir, ça va engendrer des luttes et des combats, c'est des situations difficiles. Puis dans ce temps-là, souvent, on va crier au Seigneur, puis le Seigneur nous en délivrera pas toujours. Dans le sens, pas tout de suite plutôt. Il va nous en délivrer toujours, mais pas tout de suite. Parce qu'il va nous délivrer seulement après nous avoir fait réaliser le pourquoi de nos luttes. Parce que si c'est à cause de nous, on s'est mis nous-mêmes dans le pétrin, ça vient pas du diable, là. Ça vient que c'est moi qui ai décidé que c'est ça que je voulais. Et qu'il va nous faire réaliser ça, parce que sans ça, la victoire ne durera pas. Puis sur certains de nos combats, c'est des résultats directs parce qu'on n'est pas content. On n'a pas appris à être content dans l'état où on se trouve. Mettons l'argent, OK? Ça dit, l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour ça qu'après, en hébreu, il va dire, contentez-vous de ce que vous avez et ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Fait que ça, c'est dans ce sens-là. Si on est content, l'état se trouve, tu sais, on cherchera pas juste L'argent, les biens, puis tout ça. Mettons aussi quand on cherche amour. OK? Des fois, on trouve que Dieu, tu prends trop de temps. Tu prends trop de temps à agir. Fait que je vais prendre mes moyens à moi, là. Mais des fois, on va se mettre dans le trouble. On va se mettre dans le trouble, ou même pour garder quelqu'un qu'on aime, mais qu'on n'est pas encore avec en relation de mariage, on va faire des compromis dans nos relations personnelles. Tu sais, on peut être dans l'impudicité parce qu'on veut le garder. Fait que ça emmène des combats, mais c'est des combats où est-ce qu'on s'est mis nous autres mêmes parce qu'on n'était pas content, l'état où ce qu'on se trouvait, puis on n'était pas capable, on n'avait pas la patience d'attendre après le choix de Dieu. Aussi, quand on veut les premières places, être important, on veut que le monde nous considère. Des fois, on va employer des moyens qui sont pas vraiment bons, au lieu de laisser Dieu nous élever au temps convenable. Parce qu'il ça dit, humiliez donc sur la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Si lui nous élève au temps convenable, on va pouvoir supporter cette élévation-là sans orgueil. Parce que c'est nous qui s'élevons, ça marche pas fort, puis c'est orgueil, on devient dans l'orgueil. Et que Philippiens 14, il dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à être content. Et Colossiens nous dit, Colossiens 2, vous avez tout pleinement en lui. On a tout pleinement en lui. Fait que le contentement, ça s'apprend parce qu'il dit, j'ai appris à être content. Ça s'apprend en cessant d'envier les autres. Dans le psaume 113, il dit, quand je portais envie aux autres, il était tout aigri en dedans de lui. Il dit, j'étais sans intelligence, j'étais comme presque imbécile. Là. Il dit, parce que je regardais à ce que la prospérité apparente ou réelle des méchants, jusqu'à ce que juste pénétrer dans le sanctuaire de Dieu. Et quand on est en envie les autres, on sera jamais content. On sera jamais content. Puis il va y avoir des combats qui résultent de ce mécontentement-là. Aussi, on peut développer le contentement en comptant les bienfaits de Dieu. Tu sais, il y a un chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Dieu, là, si vous ouvrez vos yeux autour de vous, là, quelle que soit votre situation, même dans les situations difficiles, il y a des bienfaits de Dieu. Et il y a les bontés de Dieu qui se renouvellent tous les matins. Hein? Ça nous dit ça. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Si vous vous levez chaque matin, c'est une bénédiction. Vous voyez encore, vous entendez encore, vous respirez. T'sais, vous pouvez bouger. On prend ça pour acquis. Mais si Dieu l'ôte quelques jours, quelques semaines, ou qu'on les apprécie après, on est-tu content après ça d'être capable de se lever? T'sais? On est-tu capable de pouvoir s'habiller, de pouvoir travailler même? On est content parce que c'est des bénédictions de Dieu. Mais on s'est habitué aux bénédictions. Puis là, le contentement il a diminué. Fait que si on regarde ça, ou juste à regarder à lui tout ce qu'il a fait pour nous pour qu'on soit ses enfants, il y a de quoi être content. S'il nous resterait juste ça, ce serait déjà beaucoup. Tu sais, qu'il a le privilège d'être ses enfants. Dieu, il est toujours là sans jamais nous délaisser, nous abandonner à notre sort. Comme notre frère a lu tantôt, il y a toujours de l'eau dans le ruisseau de Dieu, dans le ruisseau de ses provisions, de ses consolations. En lui, ma joie augmente et sa joie m'inonde et me fortifie. Fait que si ces façons-là d'être content ne marchent pas, c'est ça, comme j'ai dit tantôt, il peut justement les enlever un bout de temps pour que vous les appréciez. Parce que il veut que vous soyez content. Il veut que vous soyez joyeux. C'est pas une punition, là, mais il fait juste nous faire réaliser parce que Dieu nous enseigne tout le temps à travers toutes sortes de choses. En Néhémie, ça dit, la joie du Seigneur sera notre force. La joie du Seigneur, ça va être une force. C'est une force pour combattre. Si on est content de l'état ce qu'on trouve, si on a la joie du Seigneur, c'est déjà une grande force qui fait qu'on peut triompher. En 1 Timothée 6, ça dit, « La piété avec le contentement est une grande source de gain. » La version sommaire dit, « La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. » Donc déjà, la piété avec le contentement. 10. Apprendre à combattre. Apprendre à combattre. Celui qui veut réussir doit apprendre à combattre, persévérer et souffrir. Ça, c'est une petite pensée. On va expliquer. France, la semaine passée, ou cette semaine en tout cas, ça fait des mois qu'elle s'exerçait pour faire, comment on appelle ça, pas un biathlon, un marathon. Un marathon. Elle s'exerçait à tous les jours à courir pour faire 20 kilomètres. Des fois, elle devait avoir mal aux jambes. Tu sais, on souffre un peu, parce que des fois, ça ne doit pas nous tenter tout le temps de nous lever à tous les matins pour aller courir, des choses comme ça. Fait que si, pour des choses comme ça, il y a une préparation à avoir pour se préparer à vaincre, nous autres aussi, on a des préparations pour, on a à apprendre à combattre, persévérer, et ça donne des fois des souffrances que de apprendre à combattre. Quand une personne est esclave, on va lui apprendre à se soumettre de bon gré ou malgré elle, mais il faut qu'elle se soumette. Mais on lui apprend pas à se battre, à un esclave. Mais un conquérant, oui, on lui apprend à se battre, ok, pour qu'il conquère. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il était esclave, ok. Et là, Dieu, il a décidé de pas le faire passer par le chemin le plus court. Parce qu'il aurait rencontré des ennemis, puis il n'était pas préparé à se battre. Il était préparé à être des esclaves, il avait été des esclaves, mais il n'était pas des soldats, il n'était pas des conquérants. Ça dit ça, c'est que Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe, car il s'était dit, s'ils devaient affronter des combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en Égypte. Avec des fois, nous autres, c'est ça aussi. Des fois, le Seigneur ne nous fait pas passer par le chemin le plus court, parce qu'il y a des choses à nous enseigner pour justement nous apprendre à combattre. Mais il nous préserve pour pas qu'on veuille regretter et qu'on retourne dans le monde. Il va nous préserver là-dedans. Et qu'est-ce que les épreuves du désert ont, Dieu a appris à son peuple? Il a appris à son peuple qu'il fallait qu'il lui fasse confiance, qu'il fallait avoir foi en lui. Se confier en lui, le consulter et obéir immédiatement et entièrement aux directives qu'il donnait. Fait que ça les a comme habitués à faire le combat, qui n'est pas un combat comme d'habitude. Hein, c'est pas nécessairement ça que les combats, les soldats apprennent à Valcartier. Mais pour ce que Dieu voulait faire, prendre le pays de Canaan, c'était ça qu'il avait besoin de savoir pour combattre. Il devait apprendre à lui faire confiance, avoir foi en lui, se confier en lui, le consulter et lui obéir. Avec ça, il pourrait vaincre tous les ennemis, parce que c'est Dieu qui les menait au combat, puis il les laissait pas aller au combat tout seul. Hein, il allait être avec eux, il allait les précéder, parce qu'il a comme eu la terreur un peu dans le pays, parce qu'il apprenait qu'Israël s'en venait, le peuple d'Israël s'en venait. Ils ont entouré, puis ont fermé leur marche aussi. Il a mis tout l'univers à contribution pour qu'il gagne. Quand que Josué, le soleil s'est arrêté. OK? Fait que ça, c'était quelque chose. À un moment donné, ils ont vaincu. Les autres, ils restaient sur place. Dieu a fait un bruit dans les micocouliers, là, un arbre, en tout cas. Ils ont entendu un bruit, puis tous les ennemis sont entretués. Tu sais? Fait que c'est, puis les autres du Jourdain qui sont séparés, ou les autres de la même part. S'il faut, il va prendre tous les moyens, puis il a tout l'univers à sa disposition pour nous permettre qu'on gagne. Pour nous permettre qu'on ait la victoire. Il va faire. Dieu, il est le chef de l'armée, le stratège militaire idéal, qui gagne toutes les batailles. Il gagne toutes les batailles. Fait que le peuple, sous ses ordres, participe à sa gloire, puis on est ouvrier, comme on dit, avec Dieu. En Exode, ça dit que l'Éternel est un vaillant guerrier. Hein? Et nous aussi, ça dit qu'il exerce nos mains au combat. Il exerce nos mains au combat, et il nous sert de force pour le combat. 1 Pierre 5, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ça peut être souffrant par bout, mais c'est pas une souffrance qui est inutile et gratuite. C'est que ça développe des choses qui vont vous faire que vous allez être affermi, vous allez être perfectionné, fortifié, rendu inébranlable. C'est quelque chose inébranlable, là. On ne branle plus. Hein? Ça veut dire qu'on ne cloche pas d'un côté ou l'autre, on n'est pas influencé par des faux raisonnements, on est vraiment ferme. Fait qu'à travers nos difficultés, nos combats, Dieu nous exerce et développe les vaillants héros. Si on se laisse former, si on retient ce qu'il nous enseigne, puis si on le met en pratique. Fait que son but, perfectionner, affirmer, rendre inébranlable. En Colossiens, ça dit qu'étant enraciné et fondé en lui et affirmé par la foi. Fondé en lui, le Seigneur, à un moment donné, me l'a expliqué, il dit, c'est plus fondu en lui. Il est le roc, il est notre rocher, et nous, on est fondu en lui, enraciné et fondu en lui. Fait que c'est impossible de déloger ça, parce que tu délogerais le rocher des anges. Si tu es fondu en lui, tu vas être inébranlable. Quand il dit aussi, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme, c'est des armes aussi qui sont offensives et défensives. C'est pas juste pour se défendre, on n'est pas tout le temps là juste à se défendre. On attaque aussi. On attaque parce que c'est des armes des deux façons. Puis ça, c'est l'épée de l'esprit aussi qui est la parole et tout ça. Fait que Psaume 45, qui est le terme, le verset que Jean-Pierre avait pris pour cette année, « Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire, oui, ta gloire et sois vainqueur. Monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. » C'est vraiment ça. 11, la puissance de nos paroles pour la victoire. J'arrête à 15, on s'en vient. Parce qu'on a fait 15 semaines. Vous voyez qu'on s'est équipé là. Tu sais, toutes ces semaines-là, on se fortifie pour qu'on ait la victoire. Mais je voulais vraiment le partager parce que j'ai dit, il manque tout ça, tandis que Dieu, il dit pour l'année d'être vainqueur. Faut qu'il sache. Faut qu'il sache les outils. La puissance de nos paroles pour la victoire. Romains 10. Mais au sujet d'Israël, Dieu dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Proverbe 18 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Luc 6 dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si on écoute les paroles qu'on dit au sujet de Dieu, au sujet de nous ou des autres dans les combats, on va apprendre des affaires. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans les combats, quand ça frotte, quand ça chauffe, qu'est-ce qu'on dit de Dieu? Qu'est-ce qu'on dit de nous? Qu'est-ce qu'on dit des autres? Vous allez voir où est-ce que en est votre cœur. Qu'est-ce qu'on dit de Dieu? On dit-tu, oh Dieu, c'est pas juste, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais rien pour moi. Jamais j'aurais cru que tu m'aurais laissé vivre ça. Qu'est-ce que ça m'a donné d'avoir été fidèle? Est-ce que c'est ça qui sort de notre bouche quand on est coincé? Qu'est-ce qu'on dit de nous par rapport à Dieu? Dieu, c'est plus fort que moi. J'y arriverai jamais. Je peux pas faire ça. Je suis pas capable de m'arrêter. Je suis comme ça. Je suis pas certain que tu vas me guérir ou que tu vas pouvoir à mes besoins parce que si je donne ma dîme, je vais être dans le rouge. Il manque déjà d'argent. Hein? Qu'est-ce que tu dis quand tu es dans le trou? OK? Aussi, quand c'est d'autres personnes qui sont impliquées, est-ce qu'on bénit ou est-ce qu'on les maudit? Avec la vie et la mort de notre propre état spirituel, de la durée et de l'issue de nos combats dépend beaucoup de ce qu'on affirme avec nos bouches. Hein? Ça dépend beaucoup de ça. Si Dieu me dit « Jamais je vais t'abandonner, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde » et que moi je dis « Tu m'as abandonné, tu m'as laissé tout seul », je suis contredisant, car Dieu dit et moi je contredis. Je dis le contraire. Si Dieu me dit qu'il me fait toujours triompher en Christ et je pue tout par celui qui me fortifie, et que moi je persiste à déclarer, je peux pas, c'est impossible que j'aie la victoire, ben je suis contredisant. Dieu me dit et moi je dis, je contredis. Je dis le contraire. Si Dieu me dit de bénir mes ennemis et moi je me plains des chrétiens qui sont sans corps ou que je maudis au lieu de prier pour mes ennemis, je suis contredisant, car Dieu me dit et moi je contredis. Et que c'est important de juste s'écouter des fois qu'est-ce qui sort de notre bouche. Dieu me l'a dit une fois, puis j'ai été surpris de... Hein? C'est vrai que je suis en train de dire quelque chose qui est contraire à ce que tu me promets. Fait que si on lutte nous-mêmes contre une propre victoire, on lutte nous-mêmes contre la victoire, c'est dur de l'avoir. Elle dit, car, Matthieu, il dit, car par tes paroles, tu seras justifié. Dans le sens que Dieu va me donner raison. Ou par tes paroles, tu seras condamné. Il va me donner tort. Fait que les paroles qui sortent de notre bouche, ça montre où est notre foi, notre cœur, au moment où est-ce qu'on les laisse sortir. Et nos paroles dans les combats doivent s'aligner avec celles de Dieu pour obtenir la victoire et l'accomplissement des promesses. Si on ne s'accorde pas avec Dieu, on n'avance pas vers la victoire quand on ne fonctionne pas selon la vérité. Et la puissance est dans la vérité. En Corinthiens, ça dit qu'on n'a pas de puissance contre la vérité, on n'en a que pour la vérité. Et c'est important. Écoutons-nous et que déclarons-nous en général? On va trouver souvent une réponse à nos échecs lors des combats. Une réponse aussi aux promesses qui ne sont pas encore réalisées encore, juste à cause de ce qui sort de notre bouche, parce que ça vient de l'abondance du cœur. Ça nous montre la réalité de notre cœur. Et quand on peut sonder nos cœurs, mais demander pardon et commencer à parler selon la vérité qui va nous rendre libres et victorieux. Puis on n'a pas besoin de sentir ça, le sentir, ah, Dieu me dit que je peux tout par lui, qu'il me fait toujours triompher. Tu n'as pas besoin de le sentir, puis tu n'es pas en train de mentir quand que, ben, tu déclares quelque chose que Dieu te dit puis que tu le sens pas. J'ai juste pris l'exemple que Dieu m'a donné un exemple. Si on est daltonien, OK, puis il y a une pomme. Puis pour toi, là, tu es daltonien, puis la pomme est rouge, OK? Mais tu as ton ami à côté de toi que tu lui fais confiance, que tu sais que il est pour toi, puis il dit que la pomme est verte. Bon, tu as le choix de continuer à dire qu'elle est rouge ou tu as le choix de t'aligner avec ce qu'il déclare être la vérité parce que lui, il n'est pas daltonien puis il dit elle est verte la pomme. OK? Fait que c'est la même chose un peu. Si Dieu déclare quelque chose, que je le sente ou que je le sente pas, j'ai le choix de m'aligner avec ce qu'il dit parce que qu'est-ce qu'il dit? C'est toujours la vérité. C'est toujours la vérité. En Jean 8, 32, ça dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Dans ce cours-là, Jean-Pierre avait fait comme un genre de petit texte pour nous faire examiner nous-mêmes. Je vais vous le lire. Là, c'est comme si Dieu parle, OK? Veux-tu que je te montre ce qu'a causé tes paroles pour ton entourage? Non, pas vraiment. Regarde un peu le film de ta vie. Vois les autres chrétiens qui se sont mis à agir selon tes propos, à engendrer de l'amertume, qui se sont distancés de ma maison. Regarde tel ou tel chrétien qui a su ce que tu disais de lui. Vois son cœur meurtri et triste. Vois tous ceux et celles qui se sont trouvés affligés de voir ce que tu disais et ce que cela leur causait. Oh Seigneur, j'en ai assez vu. Non, attends, j'ai pas fini. Veux-tu voir dans les lieux célestes comment l'ennemi se réjouissait de tes propos? Il se frottait les mains de satisfaction de voir comment tu lui donnais l'opportunité de faire chuter d'autres croyants. OK, j'ai compris. Non, c'est pas fini. Veux-tu voir comment tu as empêché une certaine action de mon esprit par tes paroles? Comment des gens se sont éloignés, se sont retirés, se sont repliés sur eux-mêmes, décriant mon Église? Et quand tu as agi ainsi, veux-tu voir contre qui tu t'en es vraiment pris? Contre moi. Quand tu as dénigré un de mes enfants, c'est moi que tu as dénigré. Quand tu t'es moqué d'un autre, c'est de moi que tu t'es moqué. Quand tu as répandu des calomnies, c'est moi que tu as calomnié. OK, Seigneur, j'ai compris. Alors, tu comprends qu'une bonne partie de ce que j'avais en réserve pour toi s'est envolée suite à tes paroles. Si seulement tu avais pris conscience de la gravité de tes paroles, si seulement tu étais venu pour t'en repentir, si seulement tu avais réclamé mon aide afin de surmonter cette faiblesse en toi. Pourtant, c'est pas parce que je t'avais pas averti et prévenu. T'en souviens-tu? Le 28 mai 2017? Je t'en avertis. C'est ce qu'il nous avait dit. Fait que c'est important, nos paroles. Pour les victoires. 12. Les victoires, un pas à la fois. Toutes nos victoires ne sont pas instantanées. La plupart même ne sont pas instantanées. C'est un pas après un pas après l'autre. Mais Philippiens nous dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Quand Dieu commence quelque chose, quand il débute quelque chose, il l'amène à son achèvement. Et il sait comment le faire à la perfection. S'il y a un début, sois certain qu'avec Dieu, il y aura une arrivée, une fin. Tu vas arriver au bout. Parce que notre Seigneur est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Un début, c'est l'aurore de l'achèvement. S'il y a un début, c'est l'aurore. Alors, faut pas mépriser les faibles commencements. Faut pas mépriser les faibles commencements. Parce que Dieu va, il va continuer. S'il a commencé, il veut continuer. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de continuer? On a l'exemple d'Israël qui n'est pas rentré en Canaan. OK? Ceux qui sont morts dans le désert. Ça dit en Hébreu 4, « Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Hébreu 3, 19, « Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer, en terre promise, à cause de leur incrédulité. » En psaume 106, « Puis ils ne voulurent plus rien savoir du pays de leurs rêves, ils ne croyaient plus à la promesse de Dieu. » C'est ça qui peut empêcher que quelque chose qui a été débuté, qui a été promis par le Seigneur, vienne pas à son achèvement. Pas parce que Dieu veut pas l'achever. Il veut toujours achever. On peut se remettre en route aussi quand c'est en train de rester pris à quelque part, là. Mais c'est justement notre foi. Est-ce qu'on croit encore en la promesse? Est-ce qu'on est incrédule? On est devenu incrédule, on veut plus rien savoir de la promesse parce qu'on trouve que ça prend trop de temps ou je sais pas trop quoi. Ça dit en Romains 1 que le juste vit par la foi. C'est la foi qui saisit les promesses de Dieu. Puis quand ta foi a saisi la promesse de Dieu, Dieu agit selon notre foi. Il a dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Selon ta foi. Si on ne croit pas que Dieu puisse faire comme il a dit, alors je ne pourrais pas le saisir. Et sa promesse, la promesse de Dieu ne pourra pas germer dans ma vie. Parce que ma terre est stérile parce qu'elle n'a pas de foi. Elle ne pourra pas porter ses fruits parce qu'il n'y a pas de foi. Le juste vit par la foi. Il reste vivant par la foi. C'est la foi du début à la fin. La foi qui nous a permis d'être enfants de Dieu, qui nous permet de croître, qui nous permet d'être là jusqu'à la fin, à la vie éternelle. Donc, s'il y a certaines de tes victoires qui tardent selon ta perception, ne lâche pas. Puis attends-les avec foi, car elles vont sûrement se produire si tu continues à croire et suivre les directives du Seigneur. Habacuc, il disait ça, il y avait une prophétie qui avait été donnée. Puis nous, on peut le prendre pour la victoire. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Faut avoir notre foi que ce que Dieu nous a donné comme promesse, ça va s'accomplir. Parce qu'il dit rien juste pour nous faire plaisir. Puis ce qui a débuté, il veut l'amener jusqu'à son achèvement. Complet. Fait que même au cours de ces victoires-là qui sont pas instantanées, mais qui sont progressives, Dieu y a un but dans tout ça. Parce qu'il veut nous enseigner des principes. Il veut nous révéler des secrets sur lui-même et sur nous. L'attente peut être longue, mais elle n'est pas inutile. Ce retard apparent servira à démontrer la gloire de Dieu dans ta situation et tu t'en réjouiras un jour. Quand j'étais malade longtemps, j'aimerais pas être malade encore une autre fois comme ça. J'ai appris tellement de choses que ça, c'est précieux. Puis ça, Seigneur, ça valait la peine. Ça valait la peine, oui. Mais parce que c'est des choses, c'était précieux, là. C'est des choses que la vie ordinaire était pas capable de déraciner. La vie ordinaire était pas capable de déraciner certaines choses, comme le légalisme. Il y avait beaucoup de légalisme, c'était tchou-tchou-tchou. Puis là, c'était comme, j'ai appris d'autres choses. Il a déraciné ça, là. Pour que, oui, sans vie, justement par l'esprit, on suit la loi, mais la loi de l'esprit de Dieu, qui n'est pas contraire à l'autre loi, mais qui donne toute une liberté, par exemple. Fait que, Ésaïe 41, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Je suis vraiment là. 13. Notre responsabilité personnelle dans la victoire. Au cours du processus de victoire, Dieu nous enseigne, nous montre des choses, nous demande des actions, des attitudes. Mais ça revient à nous d'y prendre garde et de décider d'appliquer à notre vie ce qu'il a dit. C'est nous qui avons, parce qu'il nous forcera pas. Tu sais, lui-même, il nous forcera pas, là. C'est pas Dieu qui va le faire à notre place non plus, c'est notre responsabilité personnelle. Fait qu'il nous dit plein de choses, mais c'est à nous de le faire. La foi, c'est de faire confiance à Dieu quand vous avez des questions sans réponse. La confiance, c'est notre tranquillisant naturel. C'est cute, hein, ça, cette phrase-là? Fait que quand on doit faire des choix, que nos pensées s'agitent au-dedans de nous, qu'on ne sait plus ce qui est bon de faire ou on veut simplement savoir là, ce que Dieu pense, notre responsabilité personnelle, c'est de prendre le temps de s'arrêter dans la présence de Dieu pour connaître son cœur. Parce que le verset qui allait avec ça, c'est « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » On s'arrête pour savoir, on s'arrête avec confiance dans le brouhaha puis tout ça, pour savoir qui est le Dieu que nous servons. Puis on va y trouver la paix, du repos et de l'assurance, parce qu'il n'y a rien de trop difficile pour lui. Il y a ce qu'il faut pour agir en notre faveur, pour démêler notre situation. Il y a une petite pensée ici. Ne dis pas à Dieu, j'ai de grands problèmes. Mais dis à tes problèmes, j'ai un grand Dieu. C'est cute, hein? J'aime ça. Je répète. Ne dis pas à Dieu, j'ai de grands problèmes. Mais dis à tes problèmes, j'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. Et quand on réalise comment Dieu domine, quand on rentre pour s'arrêter en présence de Dieu, alors c'est tout est bien dans notre âme. Tout est bien dans notre âme. C'est comme Psaume 116, il dit, « Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » Que c'est lui. Quand si on continue le Psaume 46, ça dit, « L'Éternel désormais est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. C'est lui qui fait cesser nos combats. » Fait qu'on s'arrête. 14. Regardez-vous comme mort au péché. Ce qu'on a fait durant cette semaine-là, on a décrit tout ce qu'un mort pouvait plus faire. Un mort physique. Il peut rien, il peut plus respirer, il peut plus parler, il peut plus se mettre en colère, il peut plus pécher. Le mort peut plus pécher. OK, tu sais, il n'y a plus de dette non plus, il n'y a plus de facture à payer. Il est libre de tout ce que la vie demandait. Il est libre de tout ça. Tu sais, il est mort. Puis là, Dieu nous dit, regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme mort au péché. Parce que Dieu, il nous a parlé tantôt de nos paroles qu'il fallait s'aligner avec lui. Mais il veut qu'on aligne aussi notre vision de qui il est ou de ce que nous sommes en lui, avec lui. Puis par rapport au péché, il dit, regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comment. Moi, j'ai trouvé ça vraiment puissant, cette affaire-là. Parce que ça, dans Galates, ça dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Donc, j'ai été crucifié avec Christ. Si j'aurais pu mettre l'image que j'ai trouvée sur la chose, j'avais pas le temps. Tu voyais la croix avec Jésus-Christ, puis une personne collée dessus. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Comme Jean-Baptiste qui a dit, il faut que moi je diminue et que lui grandisse. Le moi qui veut régner, tu sais, on a donné notre vie avec Christ, on est mort. Puis c'était quoi cette mort-là sur la croix? C'était mort au péché. C'était mort pour payer le prix de tous les péchés. Puis après ça, il y avait la résurrection, mais qu'est-ce qui est ressuscité? C'était pas pareil comme qu'est-ce qui est mort. Parce que même Marie avait de la misère à reconnaître Jésus après. C'était un autre corps glorifié. C'était pas un corps qui pouvait encore pécher. Celui-là, il est resté dans le tombeau. Celui-là, il a été crucifié. Et regardons-nous comme mort au péché. Et si je suis morte au péché, je vais réaliser que je suis plus sous l'autorité du péché. Je suis morte au péché. En passant, c'est pas le péché qui est mort. Péché, là, il va régner jusqu'à temps qu'il y ait la nouvelle Jérusalem puis que Dieu renouvelle toutes choses. C'est moi qui meurs au péché. Fait que le péché, il sera toujours là, quelque part. Mais moi, je suis morte au péché. Fait que c'est différent. Tu sais, je suis morte au péché. Regardez-vous comme morte au péché. Donc là, souvent, je me regarde comme ça. Je suis plus sous l'autorité du péché. Il n'a plus de pouvoir sur moi parce que je suis morte au péché. Il n'y a plus de pouvoir sur moi pour me pousser à faire ce que je veux pas faire. Je suis libre et capable de ne plus pécher parce que je suis morte au péché. Si je suis morte au péché, je lui dois rien non plus. Je lui pas redevable pour faire ce qu'il me demande. Ça le dit en Romains 8, 12. Ainsi, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si je suis morte au péché, j'ai changé de maître. C'est maintenant le Saint-Esprit que je suis, qui vit en moi et qui me permet de faire ce qui plaît à Dieu. En Romains 8, ça dit, en effet, l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. M'a libéré de ça. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si je suis morte au péché, c'est ça. Le moi diminue, Christ grandit en moi. Le grain de blé que je suis meurt pour porter beaucoup de fruits à la ressemblance de mon sauveur. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je suis morte au péché. C'est vraiment spécial. 1 Jean 3, 6. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. C'est vraiment un grain, ça. Parce que on pourra pas dire, ben, je suis pas capable. C'est impossible que j'aille cette victoire-là. C'est pas vrai. Je suis morte à ça. Il y a plus de pouvoir pour moi. Je dois rien, ce péché-là. Je suis libre du péché. Puis, le mort, il doit rester mort. Parce qu'on a le pouvoir de le faire relever en lui obéissant. Mais on va le rester mort. On avait mis une petite image d'une tombe, là, avec une main qui sortait de terre, qui essayait de ressortir de la tombe. Faut que ça reste mort. Regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Dernier. Être heureux avec Dieu, c'est une source aussi de victoire. Ça, c'est Francis qui nous l'a amené cette semaine. Puis son verset, c'était « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Puis il dit « Heureux serez-vous. » Combien de versets dans la parole nous montrent que Dieu veut qu'on soit heureux? Et quand, justement, on est heureux avec Dieu, on a bien des combats qu'on s'évite. On a confiance en Dieu parce qu'on est heureux avec Dieu. Fait que, il y a bien des choses qu'on est capable de vaincre juste par le fait qu'on est heureux avec Dieu. Puis il faut cultiver tout ce qui peut nous rendre heureux avec Dieu. Puis, quand on est heureux avec Dieu, la victoire est à notre portée, devient plus facile et rapide parce qu'il fait couler en nous ses eaux vives et qu'il nous habite. Or, le diable ne reste pas dans la présence de Dieu sans craindre et s'enfuir. Fait que si on est plein de Dieu, c'est ça. Je terminais avec le psaume 111. Je sens ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Durant toutes ces semaines-là, on a appris des versets. On a appris des versets que je vous ai dit ce matin pour les garder dans notre cœur pour que dans les moments difficiles, ils remontent et ils nous donnent le moyen d'en sortir. Fait que toutes ces choses-là qu'on a vues au cours des semaines, c'est toutes des outils qu'on peut avoir pour qu'ils nous aident dans la victoire. Puis Dieu nous montre comment ils marchent, puis il nous montre comment les utiliser, quand les utiliser. Puis c'est toutes des choses. Puis moi, ce qui me surprenait aussi, c'est le nombre d'outils. Il n'y a pas juste dit « sois vainqueur », puis là, « sois vainqueur », OK, « sois vainqueur ». Il a donné plein de choses qui nous aident à être vainqueur. Puis, il nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On est plus que vainqueurs. Puis, toutes les promesses qu'il nous a faites de délivrance, elles sont toutes oui et amen pour chacun de ses enfants. On va terminer en chantant « Tu exerces mes mains pour le combat ». Est-ce qu'il y en a qui le savent, ce chant-là? Pas beaucoup? Est-ce que tu l'avais dans les chants, Diane, celui-là? OK. Tu exerces mes mains pour le combat et mes bras pour bander l'arc de bronze. Tu exerces mes mains pour le combat et mes bras pour bander l'arc de bronze. Tu me donnes le bouclier vainqueur. Mes ennemis tombent sous mes pieds. Béni soit le roc, l'Éternel des armées.